J'ai l'autorisation d'enlever mon masque. Donc, pour la prédication, je vais l'enlever. Je suis à distance réglementaire. Donc, pour moi, c'est plus facile de parler comme ça. Hein, d'accord ? La première. Alors, c'est Étienne, hein, vraiment, qui a beaucoup de courage, parce que je lui ai confié beaucoup de dessins. On va parler ce matin d'un homme extraordinaire, c'est le roi David. Donc je vous ai donné quelques indications sur lui. Hein. David, il est né donc en 1040 avant Jésus-Christ, c'est pas jeune, hein. Ça fait quand même du temps. Et puis il était désigné roi d'Israël parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Voilà. Il a écrit 72 des 150 psaumes qui sont dans la Bible, ce qui est énorme. Et cet homme a été l'un des plus grands personnages qu'on puisse trouver dans la Bible. Alors après Jésus, bien sûr. Hein. Voilà, ben bonjour à toutes et à tous. Alors, les vacances obligent. Ce matin, je vais méditer avec vous sur un psaume que m'a proposé notre sœur Sandrine. Voilà, Sandrine. Je lui ai dit Sandrine parce que je ne savais pas trop sur quoi parler. Je lui ai dit, tu aurais quelque chose à me proposer. Elle m'a dit, oui, le psaume 40. Bon. Alors, voilà. Et pendant les vacances, vous pouvez aussi, vous, si vous voulez, me proposer une parole, un texte, un thème biblique sur lequel, eh bien, éventuellement, je pourrais méditer pour une prédication. Voilà. Le livre des psaumes, il se trouve au beau milieu de la Bible. Si vous ouvrez la Bible à peu près au milieu, vous allez trouver le livre des psaumes. On dira dans son cœur profond, dans le cœur profond de la Bible, certains chrétiens ont une véritable passion pour la lecture des psaumes. D'autres, au contraire, n'y trouvent aucun intérêt. Dans son introduction au psaume, la Bible Nouvelle écrit « Ce grand recueil d'hymnes et de prières exprime le cœur et l'âme de l'humanité ». Alors, il aborde l'expérience humaine dans toute sa diversité, sans aucune banalité. David et les autres psalmistes évoquent leurs véritables sentiments et ce que leur relation avec Dieu a transformé dans leur vie. Alors, vous le voyez, nous évoluons, et vous le savez, hein, dans un monde très très superficiel qui a peur de s'ouvrir et de se livrer. Bonjour, comment ça va ? Ça va, et vous, ça va ? Oui, ça va, au revoir. Bon, je caricature, mais en général, c'est un peu comme ça. Et puis moi, le premier, hein, je dois lutter contre ma tendance à toujours dire « Oui, ben ça va, ça va, tu vois, ça va, ça va, ça va ? Bon, ben ça va, au revoir. » Beaucoup de personnes échangent des banalités lorsqu'elles se rencontrent. Pourquoi ? Ben pour éviter de s'engager dans des échanges beaucoup plus profonds. La superficialité peut ainsi devenir un mode de communication et imprégner tout notre langage, devenant notre style de vie. Ce n'est que lorsque nous acceptons de parler honnêtement de nous, de nos sentiments et de nos émotions, que nous pouvons vraiment être connus, aimés et aidés. Ce monde superficiel peut gagner et déteindre aussi sur notre relation profonde avec Dieu, que ce soit dans notre témoignage, mais aussi dans notre moment de prière. Parce que quand on n'ose pas parler de soi, eh bien nous limitons la profondeur de notre relation avec lui là-haut. Vous voyez ? Frères, sœurs, en lisant les psaumes, nous pouvons entendre des croyants qui sont comme nous, crier à Dieu du plus profond de leur désespoir ou chanter sa grâce avec allégresse. Ils le font avec sincérité et honnêteté, sans rien cacher à un Dieu d'amour qui, de toute façon, voit tout et sait tout. Dieu, il voit tout et il sait tout de nous. Alors pourquoi lui cacher des choses ? Et vous vous rendez compte que même une haute personnalité, comme le roi David, peut devant nous ce matin ouvrir son cœur, exprimer librement ses sentiments et ses émotions et dire sans frein, sans cachotterie, ce qu'il vit. J'imaginais le président Macron, ce matin, par exemple, devant vous, exprimer toute la profondeur de son cœur. Bah, David, c'était ça, c'était un roi. C'était un, comme un président. Il peut exprimer ses doutes, reconnaître ses fautes et appeler le Seigneur à son secours. En lisant le psaume 40, laissons-nous imprégner, remplir par l'authenticité du psalmiste qui va nous guider dans sa relation profonde et sincère avec Dieu. Alors, je vous laisserai lire chez vous, si vous voulez, le psaume 40, hein, parce que ce serait trop long de le lire ensemble. Mais David commence le psaume 40 en se positionnant d'une manière ferme. Qu'est-ce qu'il dit, David, pour commencer ? Il dit « J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel » ou « toute mon espérance en l'Éternel ». Vous savez, en politique, on dirait que David, il n'utilise pas la langue de bois. Il affirme clairement en qui il croit. Il affirme son engagement et surtout en qui il place son espérance. Et vous voyez, le premier attribut du croyant, c'est l'espérance. On va retrouver un petit peu tout ce qu'on a dit dans la première partie et tout ce qu'on a chanté. Cette position tranchée, déterminée, c'est celle qu'on aimerait trouver chez tout chrétien, et puis chez moi le premier. Hein. Parce qu'il faut bien l'avouer, nous n'avons pas toujours la liberté d'affirmer librement qui on est. De dire que nous sommes chrétiens, que c'est en Dieu que nous espérons, on a des fois peur de l'affirmer. Peut-être même avons-nous, dans notre vie, d'autres espérances avant celles de Dieu. Espérance de carrière, espérance de réussite sociale, d'avoir un bon métier, être reconnu, fonder une famille. Tout ça, ce sont des choses qui sont légitimes, mais qu'on ne doit pas placer avant Dieu. Alors, quelles sont vraiment nos priorités ? David, lui, affirme « C'est en l'Éternel que j'ai mis toute mon espérance. C'est en lui. » David fait partie du peuple de Dieu. Il connaît donc l'Éternel depuis sa prime jeunesse, comme toutes celles et ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Voilà ce qu'il a appris. Parce qu'en Israël, c'était comme ça. Deutéronome 6, « Écoute Israël !» L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Voilà ce qu'on lui a appris. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. C'est-à-dire que David, il a reçu cette éducation et il va la donner à ses enfants. Que Dieu, il est le seul Dieu en Israël. Alors, David, il a forcément entendu parler très tôt de Dieu et de ses commandements au sein de sa famille. Mais un jour, c'est pas parce qu'il a entendu parler de Dieu, un jour, il a dû faire dans son cœur un choix ferme pour Dieu. Alors, en lisant ce psaume, moi, j'ai eu vraiment le sentiment que David avait pris la décision de tout miser sur Dieu, tout investir en lui, en prenant conscience qu'il était et serait toujours l'espérance de sa vie. Vous savez, en lisant ça, j'ai eu vraiment l'impression d'un turfiste ou d'un joueur qui disait « je mise tout sur le numéro, je mise tout sur un cheval ». Alors bien sûr, hein, Dieu, ce n'est pas un cheval, hein, mais je mise tout sur vraiment celui en qui je crois. Beaucoup de gens n'osent pas s'engager. Alors, ils ont peur de prendre souvent, et moi j'étais le premier, hein, peur de prendre des décisions qu'ils risquent un jour de regretter. Pourtant, comme pour David, Dieu nous appelle à nous positionner. Il faut prendre une position ferme. Et vous voyez dans Deutéronome 31:19, Dieu dit au peuple d'Israël, mais il dit aussi à nous ce matin, « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Dieu nous oriente. Il dit « Choisis la vie afin que tu vives, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. » Car de cela dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. Plus clair, ce n'est pas possible. Vous savez, des fois, j'écoute les débats politiques à la télé sur LCI. Je ne sais pas si vous les écoutez des fois. Et il y a toujours quelqu'un qui dit « mais c'est d'une simplicité biblique ». Mais si c'était si simple, je me demande pourquoi tout le monde ne croit pas. Hein. Lorsque j'étais jeune, enfin plus jeune, je partais à l'aventure avec un... Je partais à l'aventure avec un copain dans des pays comme, par exemple, le Népal, en Inde, au Nicaragua, en Équateur. Et puis, là, je faisais des films. Et quand je rentrais à mon travail, eh ben, je passais mes films à mes collègues. Puis, il y en avait toujours qui venaient me voir, qui me disaient « Oh, Daniel, qu'est-ce que tu as comme chance d'aller faire des voyages comme ceux-là » Et moi, je leur disais « Mais c'est pas de la chance, c'est un choix. Parce que vous gagnez la même chose que moi. Hein, il y en a même qui gagnaient plus. » Votre choix, vous, c'est d'investir ailleurs, mais moi, j'investis dans les voyages. Avez-vous, comme David, fait le choix de faire de Dieu votre espérance? Est-ce que c'est votre choix? Alors, peut-être vous demandez-vous, mais c'est quoi l'espérance? Et si vous vous posez cette question, c'est une très bonne question. L'espérance, c'est chercher un refuge, une aide, un équilibre. C'est s'attendre à. L'espérance est le propre de l'homme, indispensable à son équilibre intérieur. Sans espérance, l'être humain n'a pas d'avenir, il est mort. Vous voyez, les gens qui sont en prison, qui n'ont plus d'espérance de sortir, c'est des êtres morts. L'espérance de David se fonde à la fois sur la fidélité de Dieu et sur la réalisation de ses promesses dans sa vie. Cet engagement de David va déboucher sur une mise en pratique de l'aide et du soutien de Dieu dans toutes les épreuves de vie qu'il va traverser. D'après les commentateurs bibliques, ce psaume 40 fait suite à l'une des plus terribles épreuves que va traverser le psalmiste, qui est relatée dans le livre de 1 Samuel 30 et 31 que je vous laisserai lire. Alors David et ses gens, parce qu'il avait toute une troupe, une armée, étaient partis pour faire la guerre. À l'époque, c'était ça, on allait faire la guerre. Et ils étaient partis si confiants de faire la guerre qu'ils avaient laissé la ville où ils habitaient, Tsiklag, avec les femmes et les enfants, et ils les avaient laissés sans défense. Ils avaient laissé, comme ça, cette ville dépourvue. Et pendant leur absence, eh bien, les nomades amalécites avaient détruit et brûlé la ville en menant femmes et enfants pour les vendre comme esclaves. Lorsque David et ses gens arrivèrent et revinrent de la guerre, eh bien, la ville avait été brûlée et détruite. Et même les deux femmes de David avaient été emmenées pour être vendues comme esclaves. Alors David et le peuple, et ça c'est la Bible qui le révèle, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ça vous est déjà arrivé, vous, de pleurer jusqu'à ne plus avoir de force de pleurer? Ouais. Eh bien, c'est ce qui arrive à David et à ses gens. Ils sont là, ils ont tout perdu. Tout. David dit dans le psaume 40, « Je suis complètement détruit. » Complètement. Frères, sœurs, cette épreuve terrible frappe David alors qu'il a placé toute son espérance en l'Éternel. Elle lui tombe dessus à l'improviste, alors que Dieu, puisqu'il est tout-puissant, il aurait très bien pu éviter cette épreuve. Alors, non seulement David, il pleure, mais il pousse des cris de douleur. Le croyant peut mettre son espérance en Dieu et quand même souffrir. Peut-être que vous, ce matin, vous traversez une épreuve alors que vous avez mis votre espérance en l'Éternel. David, il fut dans une grande angoisse, parce qu'il y avait encore autre chose. Le peuple parlait de le lapider, car tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de ses filles, de ses fils et de ses épouses. Dieu permet l'épreuve et la souffrance. Frères, sœurs, Dieu permet que nous passions par des situations difficiles pour pouvoir nous rapprocher de Dieu et mettre en pratique notre espérance. Parce que ce n'est pas le tout de dire ben, « j'espère en Dieu », tout le monde peut le dire « j'espère en Dieu hein ». Mais le mettre en pratique, c'est autre chose. Pourtant, Dieu n'abandonne jamais celle ou celui qui espère en lui. Il est présent dans l'épreuve, même si on ne le voit pas. Psaume 51, verset 19, « Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Tu vois notre cœur et tu sais qu'il est brisé et contrit. » La réaction de David montre la profondeur et le sérieux de son espérance. Il aurait pu se plaindre de son sort. Hein, on a chanté ce matin. Vous savez, crier à Dieu plutôt que de se plaindre. Eh bien, lui, il ne se plaint pas de son sort, il râle pas, il ne s'effondre pas, mais il crie à Dieu, et non sur Dieu. Parce que des fois, on confond crier à Dieu et crier sur Dieu. Il l'appelle, il lui rappelle qu'il est son espérance et sa force. David, il dit ça. Il dit, mais Seigneur, tu es mon espérance et ma force. Il crie vers Dieu et David sait que Dieu l'écoute. C'est ça qui est important. Que Dieu l'entend. Et dans un bel élan poétique, il va écrire « L'Éternel s'est penché vers moi. Il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. » Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. De crier à Dieu et de sentir quelque chose qui est comme un souffle qui vous remonte. David n'a pas cherché non plus à cacher ses émotions, à dissimuler ses peurs, vous savez, à faire le fier. Non, après avoir sérieusement accusé le coup comme un boxeur au bord du ring et au bord du chaos, il s'est tourné confiant vers son Dieu. Et nous, frères et sœurs, dans les situations d'épreuve, les situations difficiles, quelles sont nos réactions? Comment est-ce que nous réagissons? Comment nous comportons-nous? Non seulement Dieu entend la supplication de David, mais il répond, il agit, parce que ce n'est pas le tout d'entendre. Mais Dieu, il agit. 1 Samuel 30, verset 6. Alors David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. C'est comme si, en se confiant en Dieu, eh bien, il était rempli de force. David était dans le puits de destruction, les pieds dans la boue, à deux doigts d'être lapidé, et voilà que son Dieu en qui il espère le relève et le fortifie. Verset 3. Il m'a remis debout. David, il était presque KO, Dieu le remet debout. Il avait les pieds dans la boue? Non, il lui remet les pieds sur un rocher. Et il affermit mes pas. Non seulement Dieu le relève, mais il lui rend aussi la joie. Hein, on l'a chanté aussi, ça. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter mon Dieu. Il lui rend la force de le célébrer. Hein, ça arrive aussi au milieu de l'épreuve de pouvoir dire, ben voilà, il y a un moment, je célèbre Dieu. Mais aussi de témoigner son amour pour celles et ceux qui espèrent en lui. Beaucoup seront pleins de respect pour l'Éternel quand ils verront ce que l'Éternel a fait pour moi, et ils croiront en lui. C'est un témoignage. Moi, je lisais ce matin le passage, ou hier, je ne sais plus, le passage dans les Actes de l'apôtre Pierre qui était en prison. Et il était, il avait des chaînes aux pieds, il était entre deux Romains. Et qu'est-ce qu'il fait, l'apôtre Pierre? Il chante. C'est formidable. L'Éternel a permis l'épreuve de David, il l'a accompagné et soutenu par sa présence silencieuse, il l'a porté et l'a délivré. 2 Pierre 2,9, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Est-ce qu'on est attaché à l'Éternel? Dieu va permettre à David et à ses hommes de rejoindre les Amalécites. Ils vont les surprendre, les battre et récupérer les captifs vivants et tout le butin. 1 Samuel 30 et 31. Alors cette histoire authentique doit être un encouragement pour toutes celles et tous ceux qui passent par l'épreuve, car toutes celles et ceux qui passent par l'épreuve ne seront jamais déçus de l'Éternel. Après avoir mis tout son espoir en l'Éternel, eh bien David écrit au verset 5 « Bienheureux l'homme qui fait confiance en l'Éternel ». Et ça, c'est le deuxième attribut du croyant, la confiance. Nous l'avons dit, espérer, c'est s'attendre à l'intervention de Dieu, faire confiance, c'est entrer dans une relation de vérité avec Dieu. Nous lui remettons ce que nous avons de plus précieux, car il est digne de s'en occuper. Alors vous savez, moi je donne toujours cette image, c'est je me confie dans le chirurgien Alors, je dis ça aussi pour Marie-Jo, mais en qui je vais remettre ma vie? Parce que j'ai déjà eu plusieurs opérations dans ma vie. Si vous arrivez et vous ne faites pas confiance au chirurgien, vous êtes mal. Hein? Il faut lui faire confiance. Eh bien, en Jésus, en Christ, en Dieu, on peut donc aussi confier sa vie et ses projets. Proverbe 16:3 recommande, confie tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Pour David, on est heureux lorsqu'on fait confiance en Dieu. Est-ce que vous êtes heureux, vous? Oui? En réalité, l'être humain, il est face à trois options. Faire confiance à Dieu, faire confiance à l'homme ou à personne, parce que si on fait confiance à personne, on se fait confiance à soi, donc on fait confiance à l'homme, ça revient au même. Ou faire confiance à sa bonne étoile, comme on dit. Alors, se confier en sa bonne étoile, c'est très aléatoire, car c'est remettre toute chose entre les mains du hasard, c'est jouer au dé avec ce que l'on a de plus précieux, sa vie. Donc cette option n'est guère sérieuse, et nous n'irons pas plus loin dans la réflexion, parce que moi, je n'imagine pas qu'on puisse remettre sa vie entre les mains d'une bonne étoile. Alors, se confier en l'homme. Eh bien, pour David, placer sa confiance en l'homme, c'est-à-dire dans ce monde déchu par le péché, c'est se tourner vers l'homme orgueilleux. Pourquoi il est orgueilleux? Parce qu'il a la prétention de diriger lui-même sa vie, sans l'aide de son Créateur. C'est se tourner vers l'homme perdu dans le mensonge. Pourquoi le mensonge? Eh bien, parce qu'il vit selon sa propre vérité et non la vérité de Dieu. Et Jésus dira, dans Matthieu 15:14, que ceux qui se confient en l'homme, eh bien, ce sont des aveugles qui se confient à des aveugles pour les conduire. Et ça fait quoi? Ça fait rentrer dans un mur, quoi. Un aveugle qui conduit un aveugle, en général, ça ne va pas loin, quoi. Eh bien, dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, l'Éternel lui-même déclare. Et ça, c'est deux images qu'il faut bien vous imprégner dans le cœur et dans le cerveau. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, qui détourne son cœur de l'Éternel par conséquent. Il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Voilà, c'est clair, l'Éternel le dit. Celui qui se confie en l'homme, il ne verra jamais arriver le bonheur. Et nous, qu'est-ce qu'on a envie? C'est de voir le bonheur. Au contraire, dit l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en lui. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse, c'est-à-dire pendant l'épreuve. Et il ne cesse de produire du fruit. Il continue. Alors, frères, sœurs, quel type d'arbre sommes-nous? Est-ce que nous sommes un buisson rabougri, privé du bonheur, ou un arbre fruitier copieusement garni et copieusement béni? Voilà. C'est un choix de vie. Alors, dit David, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous allez prendre modèle sur ce monde qui échoue? Ah, dites-moi. Sur l'homme qui ne sait pas où il va. Et dans le verset 6, il dit « Ô Éternel, tes œuvres à toi sont merveilleuses, et tes projets sont nombreux pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais tant publier et redire tes merveilles, mais leur nombre en est trop grand. Il y en a trop. Alors pourquoi on va se confier dans ce monde qui n'a pas de projet? Se confier en Dieu, c'est lui ouvrir grand son cœur pour y laisser entrer sa parole et sa volonté. Et au verset 9, il dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Quel témoignage, quelle inspiration, quelle volonté d'ouverture à Dieu! Alors le croyant qui veut servir Dieu avec droiture, il doit comprendre et entendre quelle est la volonté de Dieu pour le servir. Ça, c'est important. Se confier en Dieu, comme l'a fait David, c'est lui offrir son cœur, on lui offre, hein, comme sur un plateau, son cœur, ses pensées, ses émotions, lui cachent rien, et sa volonté. L'apôtre Paul, dans sa prédication à Antioche, eh bien, il parle de David, il le cite. Dieu qui a choisi pour roi David lui a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs et qui accomplira toute ma volonté. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Est-ce que Dieu, ce matin, peut dire ça de chacun de nous? David nous avertit qu'il existe une autre manière de servir Dieu. Alors c'est un petit peu ce que disait Dominique ce matin, par des rituels religieux, par nos propres forces, en faisant notre volonté et non celle de Dieu. Et il dit au verset 7, « Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. » C'est ce qu'on offrait à Dieu comme rituel, les offrandes et les sacrifices. Ce que Dieu veut, hein, je le répète, c'est notre cœur offert, et non nos œuvres en premier. Et nos sacrifices de vie offerts avec un cœur égocentrique, un cœur non consacré, ça Dieu, il s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est notre cœur offert. Le rituel religieux, c'est un leurre. C'est une illusion. On a l'impression, nous, parce que plus on en fait, mieux c'est. On a l'impression que par nos œuvres, nos souffrances, dans le service, oh là, qu'est-ce que j'en bave, qu'est-ce que c'est fatigant, qu'est-ce que c'est difficile, j'ai fait des choses terribles pour Dieu. Eh bien, les sacrifices que nous consentons, nous sommes agréables à Dieu. Mais si nous faisons ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire, quel intérêt pour Dieu? Quel intérêt? Vous savez, une maman voulait faire une tarte aux pommes pour recevoir son amie Jeannine. Et cette amie, elle aime tant les tartes aux pommes, et elle ne peut jamais en faire, et elle n'en mange pas. Alors elle demande à son fils de lui acheter 1 kilo de belles pommes. En route pour le magasin, celui-ci se dit « Pourquoi des pommes ? Franchement, je vais lui acheter des bananes, je vais lui acheter des framboises, je vais lui acheter autre chose. C'est bien meilleur. » Et il rajoute « Si ça coûte plus cher, je paierai de mon argent de poche. » Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que la décision de ce fils, son sacrifice, ont été agréables à la maman et à Jeannine ? Eh bien, nous, des fois, on est comme ça. On veut tellement en faire pour Dieu qu'on oublie de faire sa volonté. Le prophète Samuel, dans sa condamnation à Saül, dira, 1 Samuel 15:22, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à sa volonté ?» Dieu nous a donné à chacun des dons spirituels pour que nous les pratiquions selon sa volonté, selon l'esprit de sa volonté. Alors écoutons-le. Il y en a qui ne pratiquent pas leurs dons spirituels, puis il y en a d'autres qui en veulent d'autres. Cherchons sa volonté dans une relation intime avec lui. Sachons la discerner et soyons remplis de la connaissance de sa volonté par la soumission au Saint-Esprit. Verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, dit David. » Vous vous rendez compte? C'est un roi, hein, c'est le roi d'Israël. Et il dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Frères, sœurs, vous l'avez compris, c'est en se confiant en Dieu de tout son cœur, de toute son âme, en renonçant à agir selon notre propre volonté et en l'écoutant avec les oreilles de son cœur qu'on fait la volonté de Dieu. Et cela est important, car si quelqu'un fait la volonté de Dieu, dit Jean 9,31, alors Dieu l'exauce. Des fois, on n'a pas d'exaucement de prière, puis on se dit « Mais pourquoi, Seigneur ?» Faisons la volonté de Dieu. Dans cette dernière partie du psaume 40, David exprime une troisième et dernière attitude. Après avoir mis son espérance en l'Éternel, après lui avoir fait confiance, eh bien, il exprime à Dieu son besoin de dépendance. Dépendance par rapport à Dieu. Vous savez, pendant plus de 40 ans, moi, j'ai travaillé à Flavigny avec des jeunes handicapés qui n'avaient, du fait de leur handicap, d'autre choix que d'être portés, amenés sur les WC, nourris et retournés la nuit. Être dépendant de quelqu'un, dans ce cas-là, c'est pas chose facile, mais on est obligé. Comment vont faire ces enfants pour vivre s'ils ne dépendent pas de quelqu'un? C'est indispensable. Alors l'être humain, lui, qui est porteur du péché, ben, c'est un handicapé spirituel qui s'ignore, parce qu'il ne sait pas qu'il est handicapé spirituel. Il ne sait pas qu'il est handicapé, mais c'est un handicapé. Jugez par vous-même, nous vivons dans un monde qui ne fait pas le moindre cadeau, qui élève ou écrase l'être humain. Théodore Agrippa d'Aubigné disait fort justement « L'homme est une proie pour l'homme, c'est un loup pour son semblable. » Donc il y a le loup et il y a celui qui se fait manger par le loup. Le péché rend soit l'homme odieux, soit on fait la victime des autres, et alors il souffre, il est dans la souffrance. Ce monde est très difficile à vivre, et même les croyants n'échappent pas à sa dureté. David écrit « De malheurs innombrables, je suis environné, mes propres transgressions m'accablent, et je n'en supporte plus la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. » Vous le dites, vous, souvent, ça ? Je n'ai plus de courage. Ça vous arrive à le dire ? Moi, c'est souvent. Hein. Seigneur, je suis découragé. Encourage-moi parce que j'en peux plus. David est découragé, il n'y arrive pas. Il a beau être plein d'espérance, placer sa confiance en Dieu seul, il est écrasé par le poids de son péché, et puis ses forces sont bien insuffisantes pour le conduire. David fait le même constat que le prophète Jérémie, qui disait « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Non, ce n'est pas à lui. Cette incapacité à diriger sa vie fait que l'homme a grand besoin d'aide. Il a besoin d'un soutien moral. Mais pas que moral. Alors il se tourne vers Dieu. Il dit « Moi, je suis pauvre et malheureux. » Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas, je t'en supplie. Frères, sœurs, il n'y a aucune honte à reconnaître son incapacité, son handicap spirituel. Aucune honte. Mais c'est vrai que dans notre société, c'est honteux de reconnaître ses faiblesses. C'est au contraire un acte de lucidité, et une preuve de sagesse que de reconnaître son incapacité. Alors toujours, moi je me souviens qu'à Flavigny, les jeunes handicapés, ils étaient dépendants, mais seulement, ils n'allaient pas vers n'importe qui pour s'en occuper. Ils avaient des personnes préférées, les plus sympas, les plus tendres, les gens qui s'occupaient le mieux d'eux. David, lui, se tourne vers celui qui est attentionné et rempli d'affection. Voilà. Il a trouvé quelqu'un qui l'écoutait, qui était plein d'affection pour lui. Au verset 12, il dit « Et toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. » La tendresse de l'Éternel. Vous avez déjà vécu la tendresse de l'Éternel ? Ton amour, ta fidélité, sans cesse me protégeront. Ça ne sont pas des banalités, voyez ? C'est exprimer à Dieu vraiment le fond du fond, vraiment de son cœur. Frères, sœurs, cette dépendance à Dieu n'est pas une faiblesse, mais une force. Et dans un autre psaume, le psaume 18, David affirme « Ceux qui prennent Dieu pour refuge trouvent en lui un bouclier. Il m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. C'est lui qui m'entraîne au combat, et par sa sollicitude, il me rend fort. » Il me rend fort. Voilà, je ne suis pas fort par mes propres forces, je suis fort parce que Dieu me rend fort. Vous voyez la différence ? Frères, sœurs, Dieu est-il votre espérance ? Dieu est-il votre espérance ? Avez-vous placé en lui toute votre confiance ? Avez-vous placé en lui toute votre confiance ? Avez-vous fait de sa dépendance votre force ? Voilà, un grand merci pour votre écoute. Et puis, je vous propose maintenant de prendre un moment pour prier. Oui, Seigneur, merci pour ce beau psaume de David, ce psaume 40. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai qu'on nous a appris, dès notre plus tendre jeunesse, qu'on devait se battre, qu'on devait vraiment être le meilleur. qu'on devait vraiment, Seigneur, par nous-mêmes, montrer aux autres qui nous sommes. Mais Seigneur, toi, tu nous montres l'inverse. Tu nous montres que toute notre espérance dépend de toi. Toute notre confiance doit être en toi. Et toute, Seigneur, notre dépendance se fait par toi. Seigneur, je me remets entre tes mains ce matin et je remets vraiment tous ceux qui ont pris conscience de ces attributs du croyant, que vraiment tu nous diriges par ta force et que c'est toi, Seigneur, qui va nous donner le bonheur. Seigneur, je voudrais te remettre encore, comme l'a fait Dominique ce matin, notre sœur Marie-Jo, pour que tu la bénisses, Seigneur, dans sa santé. Que la gloire t'appartienne, Seigneur. Amen. Amen. Merci.